Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle du réchauffement climatique, on pense bien sûr d'abord aux effets sur l'environnement, cadre de vie transformé, paysages modifiés, déplacements de population, menaces pour l'écosystème, des sujets abordés aujourd'hui à l'occasion du sommet sur le climat, ce rendez-vous donné à des centaines de décideurs, d'entrepreneurs, d'acteurs publics, privés, 2 ans après l'accord de Paris sur le climat, rendez-vous co-organisé par l'ONU, la Banque mondiale et la France. Alors au-delà de cet impact environnemental ou économique de cette question, des médecins se sont d'ores et déjà arrêtés sur les effets de ces changements en termes de santé mentale. Cette thématique fait l'objet d'études aux États-Unis et en Australie. L'Australie, frappée par des sécheresses, des incendies spectaculaires, et aux États-Unis, la Californie, qui en ce moment est confrontée à des feux dévastateurs. Le sud du pays, Texas, Floride, Louisiane, confrontée là aux ouragans. Pour le cas particulier de la Louisiane, 12 ans après Katrina, certains habitants souffrent encore de dépression, d'anxiété. Le nombre de suicides y a augmenté sensiblement. Et pour ces derniers mois, on garde en mémoire les images des ravages provoqués, c'était en septembre, par le cyclone Irma, qui avait donc dévasté certaines îles des Antilles. Dans cette émission, à travers des témoignages, nous verrons que le réchauffement climatique affecte à divers degrés notre santé et que certaines populations sont particulièrement vulnérables. Avec nous en studio, le docteur Guillaume Font, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, chercheur à la Fondation Fondamentale. En direct de la Martinique et avec 5 heures de décalage horaire et quelques degrés de plus, on retrouve le professeur Louis Géhel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de psychiatrie, psychotraumatologie, addictologie au Centre Hospitalier Universitaire de Fort-de-France. Vous présidez également la Société Française de Psychotraumatologie. Fort-de-France, nous irons aussi sur l'île de Saint-Martin, à un peu plus de 400 km à vol d'oiseau de la Martinique, retrouver Fernand Fanor, rescapé de l'ouragan Irma, ce cyclone tropical d'une puissance inédite qui avait notamment ravagé cette île des Antilles françaises. Problématique à laquelle n'échappe pas l'Afrique subsaharienne. Baisse des rendements agricoles, question de l'accès à l'eau toujours plus crucial. Nous serons tout à l'heure en ligne avec le professeur Mamadou Habib Thiam, chef du service de psychiatrie du CHU de Fan à Dakar. En fin d'émission, nous parlerons démographie et contraception à l'occasion de la réunion en Guinée-Conakry du partenariat de Ouagadougou. Nous retrouverons le docteur Mohamed Yansané, conseiller politique sanitaire au ministère de la Santé de Guinée. Et puis bien sûr, pour nous joindre, un numéro de l'émission, c'est le 33 1 80 82 75 75. Dans quelle mesure le réchauffement climatique affecte-t-il la santé mentale? Le sujet est en fait assez peu traité ici en France. Mais cette question, les anglo-saxons y travaillent depuis des années. L'Australie y a consacré une étude dès 2011. Et aux États-Unis, un rapport sur ce sujet a été publié en mars dernier. Docteur Guillaume Font, quand on évoque justement ces effets du réchauffement climatique, qui sont donc au cœur du sommet de Paris qui a lieu en ce moment même, un phénomène global, des conséquences multiples, qui peut donc induire plusieurs catégories de changements. Il y a d'abord des changements brutaux et puis il y a d'autres transformations là qui sont plus insidieuses. Et dans ces différents effets du climat sur la santé, il y a un rapport au temps qui va en fait peut-être déterminer certains troubles.
Tout à fait. Quand on pense conséquences psychiatriques du climat, on pense tout de suite aux catastrophes qu'on vient d'évoquer, comme les ouragans, les tsunamis. Donc ça peut être une source très importante de psychotraumatisme, et ça survient dans les semaines qui suivent l'exposition à l'événement. Ensuite, il peut y avoir dans un deuxième temps le développement de dépression, de troubles liés à l'alcool, à la consommation de drogue. Et puis, il y a des événements plus insidieux, comme vous l'avez dit, comme le réchauffement de la planète, où on sait aussi que l'augmentation de la température peut participer à l'augmentation de l'agressivité aussi et de la compétition pour des ressources comme l'eau. Et puis enfin, il y a des mouvements de population, il y a des migrations liées au climat. D'ici 2050, il y a énormément de migrations qui sont prévues. Et on sait que les migrations sont une source de troubles psychiatriques, puisqu'on a déterminé que certains troubles psychiatriques étaient augmentés chez les populations migrantes, notamment la dépression, mais aussi parfois la schizophrénie.
Parce qu'on passe dans certains cas de l'inquiétude, et docteur Guillaume Faux, dans d'autres cas, un véritable choc, un véritable traumatisme, là par exemple pour les catastrophes naturelles, mais là encore, il y a différents rapports au temps, le temps, on peut dire, de l'accident, et puis après, le temps de la convalescence.
Exactement, donc il y a le temps de l'accident où on est exposé à un moment donné au fait de tout perdre, à parfois faire l'expérience d'une mort imminente, et donc le sentiment d'impuissance très aiguë qui peut conduire à une sidération, c'est-à-dire qu'on est complètement dépassé par l'événement, et c'est la prise de conscience de ce que l'on a vécu qui peut déclencher ensuite des troubles de stress post-traumatique. Et ensuite, dans un deuxième temps, la question c'est comment la personne arrive à se reconstruire. Et là, effectivement, si la personne n'arrive pas à reprendre le sentiment de contrôle et de reconstruction, c'est là qu'elle peut tomber dans des consommations d'alcool ou de drogue qui aggravent la situation. Et tout commence souvent par des troubles du sommeil qui ensuite créent de l'anxiété et qui peut créer de la dépression.
On le disait, les Français, les psychiatres français notamment, se sont encore assez peu penchés sur ce sujet. Pourquoi alors qu'il y a un certain nombre de territoires, on va le voir avec les Outre-mer qui sont directement concernés, est-ce qu'il y a une source d'intérêt, un champ de recherche justement à conquérir?
Alors je pense qu'il y a vraiment un champ de recherche dans lequel nous devons être pionniers, parce que nous savons que le problème va augmenter à l'avenir, donc il ne faut pas attendre d'être face au problème pour commencer à faire de la prévention. Donc nous sommes déjà très efficaces pour les cellules de crise lors d'événements traumatiques, donc nous avons eu les attentats il y a 2 ans, où nous avons vu qu'à Paris, par exemple, l'assistance publique des hôpitaux de Paris avait déclenché un plan d'urgence qui a été salué dans une revue prestigieuse comme le Lancet. Donc on a eu une réaction très forte et très efficace de la psychiatrie. Et par contre, vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas encore la conscience des liens entre les problèmes liés au climat et les troubles psychiatriques. Parce qu'on n'a pas encore intégré, pour l'instant, c'est quelque chose qui nous paraît loin. Il est vrai qu'en France métropolitaine, nous sommes assez peu concernés, nous sommes relativement protégés. Par contre, dans les Antilles, effectivement, là, nous avons vu au mois de septembre que nous étions directement exposés. Donc, il faut absolument prendre ça en charge.
Alors, justement, cette zone Caraïbe, cette année, il y a eu sur cette zone de l'Atlantique Irma, José, Maria, derrière ces prénoms, vent destructeur, vague, rivage, submergé. Professeur Louis Géel, je rappelle que vous trouvez en Martinique. Quel type de symptômes ont été pris en charge après ces différents épisodes cycloniques?
On sait très bien, pour tous les habitants des régions Outre-mer et Caraïbes, qu'on est dans la période cyclonique à ce moment-là, et donc avec l'impression que les cyclones ont déjà été éprouvés, qu'on a une certaine anticipation par les différents niveaux d'alerte qui surviennent. Et ce qui se passe de tout à fait particulier cette année, c'est qu'on va monter dans une alerte dite violette, ça veut dire le niveau maximum d'alerte, et avec des consignes de sécurité qui habituellement fonctionnent, quoi. Et là, les populations vont être surprises, alors en particulier sur Saint-Martin, et également pour le deuxième cyclone de Maria sur une partie de la Guadeloupe. La Martinique a été touchée, mais n'a pas eu de dégâts majeurs, et la peur a été relativement limitée et contenue sur le territoire de la Martinique. Mais là, on voit très bien ce qui s'est passé sur le territoire de Saint-Martin, où des maisons qui habituellement résistaient et avaient montré une capacité à faire face à la violence cyclonique, eh bien là, la population a été en grande partie, hein, puisque vous savez que quasiment 70% des maisons ont été impactées et dévastées par la violence du cyclone, la population a été surprise de l'intensité de cette force, et avec un message assez dur à entendre, c'est que c'est un phénomène peut-être nouveau auquel il faudrait s'habituer. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à accepter pour une partie importante de la population qui aujourd'hui a l'impression d'être encore dans une zone dévastée. Certains me disaient, on a l'impression de vivre sur une zone de guerre, mais en même temps, il faut se préparer à ce que dans 7-8 mois, la nouvelle période cyclonique arrive et qu'on puisse à nouveau avoir des cyclones d'une telle intensité, puisque cette nouvelle violence cyclonique serait en rapport avec l'évolution climatique et donc avec un risque qui pourrait survenir à nouveau. Et donc là, c'est quelque chose qui met la population, en tous les cas une grande partie d'entre elles, dans un climat de doute sur la capacité à se protéger. Et on voit bien que certains habitants ont quitté Saint-Martin. On a entendu les difficultés que ça posait pour la réouverture des établissements scolaires notamment. Et donc là, la difficulté à se reconstruire dans un territoire qui a été dévasté et dans lequel l'économie du pays des Outre-mer, et en particulier de Saint-Martin, est quand même très orientée vers le tourisme, vers une image d'un site agréable et un site où on vient passer un temps dans un climat qui est plutôt valorisé comme une ressource positive. Et bien là, ce climat devient quelque chose de dangereux dans lequel il faut se méfier. Et donc là, il y a un climat de doute douloureux, au-delà de cette phase de choc qui a été énoncée par le collègue tout à l'heure, qui est tout à fait juste. Il y a également le risque d'une symptomatologie dépressive qui peut survenir dans des conditions importantes du fait de l'état dévasté dans lequel le paysage reste et de l'inquiétude importante pour la population de comment l'économie du territoire va pouvoir se remettre en place et dans lequel Saint-Martin va pouvoir retrouver son image et sa capacité économique prochainement.
Alors, professeur Louis Gel, on l'a compris, une très grande vulnérabilité, sentiment que plus rien ne nous protège. Est-ce que les habitants font le lien, justement, entre cette catastrophe naturelle et le réchauffement climatique? Est-ce que c'est quelque chose qui revient ou est-ce qu'il y a, finalement, une sorte de fatalisme?
Alors, absolument, on trouve les deux. Il y a même des rumeurs qui interprètent avec des référentiels magico-religieux, cet événement dramatique d'Irma, mais la population est quand même informée, clairement, de ce risque. Et puis, on a vu l'enchaînement tout à fait exceptionnel. Une deuxième phase cyclonique avec un niveau d'alerte violette et un cyclone qui revient sur le même territoire en quelques semaines, c'est un phénomène exceptionnel. Y compris pour ceux qui sont nés ici, qui sont nés aux Antilles, qui sont nés à Saint-Martin et qui ont vu des cyclones comme Louis, ont bien perçu qu'on était là sur un phénomène d'une puissance beaucoup plus importante. Et donc là, il y a des inquiétudes sur la capacité que l'on peut avoir et cette inquiétude qu'on peut avoir à se protéger de cette évolution cyclonique. Ce qui est rassurant, c'est que notamment, on voit un écart peut-être sur Saint-Barthélemy, qui a ressenti à peu près la même puissance cyclonique, les maisons, peut-être de meilleure construction, ont mieux résisté. Et donc là, ça peut donner un message d'espoir avec le fait qu'on peut avoir la capacité technique de se protéger, mais c'est des coûts beaucoup plus importants aussi, et comment on va réussir en quelques mois à rebâtir, à remettre des toits sur chacune des maisons. Toutes les maisons n'ont pas encore retrouvé un toit à Saint-Martin, et avec difficulté d'avoir les assurances qui vont accepter, lorsque la maison était assurée, de pouvoir remettre une habitation qui va tenir, mais qui va tenir à quel risque, puisqu'on a l'impression qu'on est sur un phénomène nouveau, avec peut-être, certains disent, une gradation de la violence cyclonique qui est capable de faire évoluer, et jusqu'où peut aller cette violence, jusqu'où cette dégradation du climat, en tout cas ce réchauffement, peut amener à des cyclones d'une puissance encore plus importante peut-être.
Et illustration de vos propos, professeur Louis Gel, puisque justement on se rend tout de suite sur l'île de Saint-Martin où l'on retrouve Fernand Fanor. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous résidez à Quartier d'Orléans, c'est un village de la partie française des Petites Antilles, de cette île. Saint-Martin, dévasté début septembre par Irma, on l'a dit, comme des scènes de guerre, ville comme bombardée. Fernand, à quoi ressemble aujourd'hui votre maison, à quoi ressemble votre quartier?
Donc, je peux vous dire que maison, j'ai pas de maison. Il y a pas de maison, il y a seulement les débris, après le cyclone, ce qui reste, c'est tout ce qui reste. Et puis, et comme vous dites, étant donné que j'ai jamais vécu la guerre, moi, et je me suis dit peut-être que c'est vraiment une scène de guerre. Il y a rien, pas de maison, pas de toit, rien du tout.
Où est-ce que vous allez vous réfugier aujourd'hui? Où est-ce que vous dormez, par exemple?
Et on a été logé chez les voisins parce que je voulais rester à côté pour voir, parce que normalement je ne pouvais pas aller non plus, parce qu'il aurait fallu trouver quelqu'un qui nous accueille avec les trois enfants, et ma femme et mes trois enfants. Et on a été chez, tout de suite logé à côté de la maison, chez le voisin, mais dans une petite chambre de 4 mètres carrés, quoi. Il n'y a pas de lit, rien, on dort à terre. Et puis lorsqu'il pleut, on est obligé de se mettre debout parce que la maison, après le crise, on s'est craqué partout, de leur entente.
Alors justement, vous parliez de vos enfants. Comment vont aujourd'hui vos proches? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils parlent d'abord de ces journées terribles du début du mois de septembre?
Donc je sais pour ne pas traumatiser les enfants, surtout ne pas en parler. Et c'est des fois on fait une petite blague et mon fils me disait il avait de la diarrhée le jour du cyclone, ma femme aussi, et puis j'ai ma fille qui ne faisait pas pipi au lit, qui fait pipi au lit, mais on n'en parle pas. Sauf mon fils, le petit là qui m'embête tout le temps, qui des fois qui pose des questions à savoir pourquoi on n'est pas chez nous, pourquoi la maison elle est cassée. Quand est-ce qu'on aura une maison, des questions auxquelles je suis informé. Je n'ai pas de réponse à lui donner parce que je ne veux pas lui mentir. Et puis, donc, mais on en parle. J'essaie de minimiser au maximum afin pour ne pas leur montrer ma frayeur, que j'étais mes traumatismes. Quoi.
Vous ne voulez pas montrer vos traumatismes, mais pourtant, quand ils sortent dans la rue, ils voient encore la maison par terre. Donc, le traumatisme, il est quand même un petit peu sous leurs yeux.
Oui, et parce que je sors souvent avec mon fils de 4 ans qui me dit toujours, lorsqu'il passe un endroit, il voit les maisons cassées, il me dit, papa, c'est le citronnier, les méchants, hein, papa, le citronnier, les méchants. Hein. Et il n'arrête pas de citer. Chaque fois qu'ils vont être cassés, le citronnier, il dit de tuer, il n'arrête pas, mais et c'est ce qui me fait un peu mal parce que je ne veux pas non plus continuer la conversation avec lui parce que sachant que ça peut faire des dégâts, mais. Et les maisons cassées, ils sont partout. Dès qu'on sent, on voit qu'il y avait quelque chose. Même les enfants qui ne reprennent rien comprendront qu'il y a quelque chose de grave qui s'était passé. Quoi.
Est-ce que vous vous ressentez personnellement besoin d'en parler? Vous dites pas trop en parler pour pas réactiver les choses avec les enfants. Mais vous, est-ce que vous avez pu bénéficier d'une prise en charge?
Prise en charge, aucune. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, il n'y en avait pas. On a beaucoup. Bon, ce que je comprends, surtout après ce cyclone-là, on parlait d'aide de toutes sortes. Mais moi, je les ai bien entendus, mais voir les aides passer, ça c'est dans l'air, hein. Ça c'est dans l'air. Je sais pas qui en a bénéficié, peut-être il y en a. Mais moi, je veux que l'entendre et c'est tout. C'est comme entendre des nouvelles à la radio, c'est comme si c'était pas à Saint-Martin, c'était autre part qu'ils ont mais moi, personnellement, aucune aide, ni aide morale, de soutien moral, de personne. Non, rien, zéro, rien.
Alors, de Saint-Martin, on va rejoindre la Martinique où vous trouvez professeur Louis Giel. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui conseiller à Fernand Fanor pour lui et aussi pour sa femme et ses enfants?
Alors, vous voyez bien, ce qu'il nous dit, c'est tout à fait exemplaire et vraiment, on peut le remercier d'avoir le courage de communiquer autour de ce qu'ils ont vécu. La violence, elle a été vécue sur la famille, dans la maison. Vous comprenez que là, à la maison, chez soi, c'est l'endroit en général où on se sent en sécurité. Et donc, c'est une blessure très profonde pour les familles d'avoir eu ce sentiment d'impuissance et pour des parents de se sentir dans l'incapacité de ne pouvoir protéger leur enfant. C'est très douloureux pour les parents. Et donc, ce qui nous est dit là est tout à fait exemplaire, douloureusement, de la réalité. C'est que pour les familles aujourd'hui, c'est difficile d'aborder ce sujet parce que les parents ont tellement peur, et il nous a bien dit que la frayeur qu'il a vécue, elle est difficile à communiquer, c'est difficile pour lui d'en parler parce que sinon ça le met dans une situation de réactivation de son propre souvenir traumatique et donc il est en difficulté pour en parler à ses enfants et on le comprend bien. En même temps, donc, deux choses, on voit bien qu'il y a deux axes importants à mettre en œuvre pour les aider. Il faut pouvoir trouver le moyen de l'aider à aborder cette problématique hein, du traumatisme de ce cyclone avec sa famille. Et donc on est en train de mettre en place, au-delà des actions considérables qui ont été faites, hein. Il nous dit qu'il n'a pas eu d'aide, mais vous savez que dans la phase immédiate, comme l'a dit tout à l'heure, on a eu 130...
C'était dans l'urgence. Professeur Louis Giel, on va reprendre le cours de cette conversation tout de suite après le point d'actualité. On va vous reprendre en ligne. Nous serons toujours en direct avec la Martinique. On retrouvera aussi Fernand Fanor à Saint-Martin pour ce témoignage et pour justement envisager une prise en charge pour tenter d'atténuer le traumatisme après ce passage de l'ouragan Irma. On se retrouve dans 3 minutes.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée à l'impact du réchauffement climatique sur la santé mentale, le climat au centre du sommet à Paris en ce moment, 2 ans après la COP21, après aussi le revirement du président américain Donald Trump, revenu sur les engagements de son prédécesseur Barack Obama. Réchauffement, année 2017, saison cyclonique de tous les records dans l'Atlantique Nord. Parmi les sites visés, dévastés, il y a eu Saint-Martin au mois de septembre. Et on retrouve sur place Bernard Fanor, notre témoin. Fernand, votre maison à terre. Vous nous avez d'ailleurs envoyé des photos de ce qui reste de votre habitation. Un véritable amas de débris. Pas de prise en charge psychologique. Vous nous l'avez raconté en première partie d'émission. Les enfants, toujours inquiets. Fernand, est-ce que vous avez pensé, par exemple, vous adresser à un hôpital, aller voir des médecins pour raconter un petit peu ce qui s'était passé?
Bon, une fois, on s'était rendu à Café d'Orléans et dans un centre qui était là où il y avait la Croix-Rouge, je pense, et puis qui m'avait posé, j'étais avec mon fils, et mon fils commençait à leur expliquer que la maison était partie, et que les gens m'avaient dit qu'il fallait que je revienne, il faut que je ramène les enfants avec ma femme pour qu'on en parle. Et puis, quelques jours après, lorsque je suis retourné là-bas, j'ai trouvé d'autres personnes qui me disent bon, et ils ont décidé de ne plus accueillir les gens, qu'il fallait qu'on voit nos médecins parce que là, la situation n'est pas la même et qu'ils ne faisaient plus ça, que je devrais voir directement avec mon médecin qui va m'orienter vers un psychologue.
Professeur Louis Gehel, je rappelle que vous êtes chef de service psychiatrie psychotraumatologie à Fort-de-France en Martinique. Tout à l'heure, Fernand disait qu'il avait besoin d'en parler. Il témoignait aussi de signes de traumatisme chez ses enfants, notamment de l'énurésie, c'est bien ça. Ce sont des signes patents, justement, qu'il y a eu un choc, qu'une prise en charge est nécessaire.
Absolument. Alors, vous avez bien dit qu'il y a différentes phases nécessaires dans la prise en soin de ces troubles. On a eu dans cette phase initiale au moment de l'urgence où on a eu un déploiement important, d'une importance exceptionnelle avec plus de 130 personnes des cellules d'urgence médico-psychologiques qui sont venues en renfort national pour apporter vraiment une capacité d'intervention rapide sur le site pendant tout le premier mois, tout le mois de septembre. Et puis après, la réserve sanitaire a apporté également une contribution. Mais l'ampleur du phénomène est telle qu'il est tout à fait compréhensible qu'une partie importante de la population n'a pas pu bénéficier de soins et peut-être a bénéficié de soins à la phase immédiate. On a vu là ce qui est dit par l'auditeur témoin, c'est qu'il a pu rencontrer des équipes, notamment la Croix-Rouge qui a également développé une action importante, mais qu'aujourd'hui, il faut poursuivre cette action. Et on est en train de préparer un dispositif avec l'Agence régionale de santé pour pouvoir s'inscrire dans les recommandations, notamment que l'OMS fait lorsque une catastrophe aussi importante survient et que la population a besoin de soins, et que là, le niveau de ressources sanitaires est bien en deçà du besoin. On a une équipe de psychiatrie qui n'est pas dimensionnée aujourd'hui pour pouvoir recevoir les centaines de personnes qui peuvent présenter des troubles. On peut s'attendre à avoir, après un événement traumatique de cette force, sur une population de 30 000 habitants, on peut avoir entre 10 et 40% de la population qui peut être avec des symptômes psychologiques psychiatriques qui nécessitent une prise en soin. Vous voyez qu'on est sur des milliers de personnes qui peuvent bénéficier d'une prise en soin, d'être capable de déployer un type de réponse différent de celui que l'on organise d'habitude. Donc on est en train de construire, avec l'Agence régionale de santé, avec le ministère de la Santé, et les ressources donc, que l'on peut avoir à la fois aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, mais également d'autres équipes nationales qui peuvent continuer à nous aider. Une action avec 3 niveaux d'intervention. Un premier niveau, c'est renforcer l'action de santé communautaire, ça veut dire comment aider la population par l'intermédiaire de ces leaders naturels à avoir un niveau de compétence, de ressources pour favoriser l'entraide de la population. Et donc là, on va déployer des professionnels à partir d'une équipe qu'on a créée ici en Martinique pour les Antilles qui s'appelle SOS Crise KRIZ, qui a la capacité de porter sur le territoire de Saint-Martin dans les prochaines semaines une équipe qui va venir s'adosser avec les autres dispositifs existants dans cette démarche donc, de santé communautaire. Donc ça veut dire vraiment favoriser les liens avec la population, identifier les personnes en source, favoriser les échanges, les discussions entre les personnes pour augmenter l'entraide et également améliorer l'identification de ceux qui peuvent avoir besoin de soins. Après, c'est soit la première ligne, ce sont les médecins généralistes, hein, il y a 25 médecins généralistes en Saint-Martin, mais qui vont être affectés de façon extrêmement importante par le cyclone. Donc, on est en train de construire avec eux ce dispositif pour les aider lorsqu'ils reçoivent les personnes. Et comment renforcer le dispositif de consultation de psychotraumatologie sur le site de Saint-Martin. Aujourd'hui, il y a une seule psychologue qui est engagée énormément dans cette fonction, qui est Mme Arlène Geffry, qui fait un travail colossal avec le docteur Olin et son équipe, mais ils sont une équipe de taille limitée, donc ils sont en situation extrêmement difficile. J'ai besoin de les consolider avec leur équipe, une équipe infirmière qui devrait être également étoffée utilement. Et on est en train d'organiser avec eux un dispositif de télémédecine qui va permettre d'assurer des consultations, soit par un entretien téléphonique, soit avec une visio, de différents types de visio qu'on peut avoir, soit vraiment un dispositif de télémédecine avec une personne qui pourrait venir sur le centre de psychotraumatologie de Saint-Martin qu'on va rebâtir, on va construire même, pour qu'ils puissent être en lien avec des psychologues, soit en Martinique, en Guadeloupe, sur d'autres territoires hein, de l'Hexagone, avec qui on est en train de travailler, pour pouvoir mettre en place cette capacité hein, de soins par des professionnels et dans la durée.
On perçoit vraiment hein, l'ampleur du travail. Merci beaucoup, professeur Louis Gel. Je rappelle que vous êtes chef de service de psychiatrie, psychotraumatologie au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France. Vous êtes toujours avec nous, docteur Guillaume Font, médecin psychiatre, chercheur à la Fondation Fondamentale. On le comprend, là, il s'agit d'une réaction après les événements. Peut-être ce que ça appelle comme réflexion, c'est de se mettre davantage dans des postures de prévention.
Tout à fait. L'idée, c'est que là, on a bien vu qu'en fait, le phénomène devient de plus en plus répété. Là, on a dit, il y a eu deux phénomènes très rapprochés. Donc, on voit avec les prévisions du réchauffement climatique qu'on va être de plus en plus exposé à cela. Donc, il faut vraiment se préparer à cela. Et il pourrait être intéressant, effectivement, de créer, par exemple, des groupes de prévention où des personnes qui ont déjà vécu l'événement peuvent aussi partager avec d'autres personnes et donc réfléchir à organiser les choses, prévoir ce qui peut se passer et voir parfois le pire comme on le voit ici pour Fernand.
Justement, Fernand Fanor qu'on remercie hein, et on l'a entendu, des équipes qui vont partir, qui vont arriver, des moyens renforcés pour une prise en charge sur le plus long terme des personnes qui ont subi de plein fouet le choc, ce cyclone du mois de septembre. Alors, il y a le traumatisme et puis d'autres ressentis assez différents sur un plus long terme, déracinement, abandon contraint d'activité. Ce dont on va parler avec vous tout de suite, professeur Mamadou Habib Thiam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de psychiatrie du CHU de Fan à Dakar. Est-ce que le réchauffement climatique, professeur Thiam, est-ce que ce réchauffement est un sujet de préoccupation pour les personnes qui sont amenées à vous consulter à Dakar au Sénégal ?
Merci madame, je voudrais d'abord saluer vos invités sur le plateau et tous les éditeurs de la RFM, de RFI, pardon. Au Sénégal, non, autant que je puisse me rappeler, on ne connaît pas tellement de réchauffement climatique. La seule chose que j'ai pu noter dans ces dernières années, c'était plutôt une baisse de la température dans les régions nord du Sénégal. C'était le 7, 8 et 9 janvier 2002 avec une grande vague de froid qui a fait d'énormes dégâts. Surtout beaucoup de petits ruminants qui sont décédés, entre 500 000 et 600 000 petits ruminants décédés par cette vague, à cause de cette vague de froid. Mais un réchauffement climatique, à proprement parler, comme on voit ça dans d'autres pays, non.
Avec des épisodes de sécheresse quand même dans la zone sahélienne, avec des inquiétudes particulières en matière justement de ressources alimentaires liées à une certaine baisse de l'activité agricole.
Tout à fait, tout à fait. C'est la zone sahélienne, donc c'est connu comme une zone beaucoup plus chaude que France. C'est pourquoi d'ailleurs en 2002, quand on a eu cette baisse de température qui est partie de 40 degrés à en dessous de 18 degrés, ça a fait de grandes catastrophes au niveau du Sénégal.
Est-ce que malgré tout, il y a une prise de conscience quant au nord, on parle réchauffement climatique, des inquiétudes, des mouvements migratoires induits par ces phénomènes. Est-ce qu'il y a justement autour de vous des personnes qui en parlent et qui pourraient s'inquiéter des conséquences, non pas forcément pour eux, mais pour l'ensemble de la planète ?
Oui, bien sûr. On en parle dans les médias, dans les journaux, on en discute dans les milieux scientifiques, oui. le réchauffement climatique est une préoccupation mondiale, aussi bien en Afrique qu'ailleurs d'ailleurs. On parle bien, on sait très bien ce que ça va donner dans quelques années, et les pouvoirs publics, les milieux scientifiques en débattent régulièrement, et c'est une préoccupation des populations, et il y a des petits groupes qui sensibilisent les populations les moins averties, pour quand même qu'on puisse essayer de voir comment on pourrait sauver notre planète. En Afrique également, c'est une grande préoccupation dans les politiques comme dans les activités des scientifiques un peu partout au niveau du territoire. En Afrique d'ailleurs, de manière générale, pas au Sénégal seulement, mais dans les autres régions africaines aussi.
Merci professeur Mamadou Habib Thiam. Justement, cette question de la sécheresse, montée des eaux hein, pour d'autres régions du monde, les États insulaires, hausse des températures aussi pour les peuples autochtones du Grand Nord. Docteur Guillaume Font, tout à l'heure, vous avez parlé brièvement d'une réaction de cause à effet, hausse de température, hausse des comportements violents. Comment l'expliquer ?
Alors, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer cela. En fait, on a des hypothèses de physiopathologie sur la régulation de la température du corps. Et on fait l'expérience que lorsqu'on est soumis à une forte température, les capacités de régulation du cerveau sont un peu dépassées. C'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus de mal à réguler les émotions et notamment l'agressivité peut augmenter. Donc, c'est une forme de pression qui est exercée sur le psychisme parce que donc le corps est en train de lutter et on sait qu'on a beaucoup plus de difficultés à lutter contre le chaud que lutter contre le froid. C'est plus facile de se réchauffer que de se refroidir.
Alors, des réactions physiologiques là à la hausse de température, d'autres réactions physiologiques au choc, au stress. Est-ce qu'on étudie justement, j'imagine que la réponse va être positive, les effets sur le cerveau? Est-ce qu'on voit des changements notables, par exemple en termes d'imagerie médicale, sur des personnes qui ont justement subi ce type d'épisode ultra stressant?
Oui, alors on le voit à l'IRM fonctionnel, c'est une IRM qui, une imagerie qui permet de voir le cerveau en action, parce qu'il n'y a pas généralement de conséquences sur la structure du cerveau, c'est-à-dire que quand on fait juste une photographie du cerveau, on voit pas de différence. Et donc en fait, ce que montrent ces IRM, c'est que dans le circuit de la mémoire, il y a quelque chose qui a dysfonctionné, c'est-à-dire que c'est comme si le cerveau n'avait pas été capable d'enregistrer l'information de l'événement au moment où il se produit, et le stocke dans la mémoire à court terme. Et alors que normalement, quand on vit un événement, il est stocké dans la mémoire à long terme, en quelques minutes. Et là, en fait, le choc émotionnel sidère le cerveau. Et ensuite, l'événement est réactivé comme s'il s'agissait d'un événement récent. Et c'est ça qui constitue le syndrome de stress post-traumatique.
Alors, on a donné un nom particulier hein, dans justement cette relation au réchauffement climatique et les effets sur la santé mentale. C'était après l'ouragan Katrina sur la Louisiane, 2005. Il y avait eu plus de 1800 morts. Les chercheurs américains ont appelé cela le cerveau de Katrina. De quoi s'agit-il exactement, docteur Guillaume Font?
Donc, il s'agit de symptômes qui apparaissent après l'exposition à un événement traumatique de grande ampleur et qui commencent souvent par des troubles du sommeil, des troubles de concentration et de mémoire. Et ensuite, qui peuvent annoncer l'apparition de symptômes anxieux. C'est ce qu'on appelle là, au sens propre, le syndrome de stress post-traumatique. Et lui-même, en fait, peut s'associer à des consommations d'alcool pour essayer de diminuer l'angoisse ou d'autres drogues. Et donc, cela fait un cercle vicieux et cela peut faire le lit de la dépression quelques semaines après.
Est-ce qu'on peut comparer ça à ce que vivent par exemple les personnes victimes de viol quand elles parlent d'amnésie traumatique? C'est à peu près le même fonctionnement?
Oui, c'est le mécanisme qu'on appelle la dissociation. C'est quand la personne finalement est comme scindée de l'événement qu'elle a vécu et a pu faire par exemple une expérience dans ce qui est décrit classiquement par les patients. Il y a des expériences de se voir de l'extérieur ou de voir ce qui s'est passé comme un film et de dire je ne suis pas sûr mais vraiment d'avoir vécu ce que j'ai vécu. J'ai des images, mais je me suis déréalisé, c'est-à-dire en fait c'est comme si la réalité n'était plus la réalité ou qu'elle n'était plus la personne qu'elles étaient à ce moment-là. Donc c'est ce qu'on appelle la dissociation. Et effectivement, c'est souvent un signe annonciateur ensuite du syndrome de stress post-traumatique et c'est chez ces personnes-là qu'il est très important de faire un suivi rapproché.
Avec en particulier la difficulté face au deuil, on dit faire son deuil face à des catastrophes, des accidents, des pertes massives de proches, de voisins ou même d'inconnus, voir aussi ces scènes avec des cadavres, c'est quelque chose de proprement traumatisant. Comment justement est-ce qu'on peut prendre en charge ces personnes, d'autant plus, on l'a souligné tout à l'heure avec le cas de Saint-Martin, même si finalement le tribut humain entre guillemets n'avait pas été si lourd, un véritable choc sur le long terme, comment déployer justement des équipes suffisantes en termes de santé pour faire face à ce traumatisme massif?
Alors, ça demande une grande organisation, c'est souvent basé sur le volontariat. Quand on est dans des situations exceptionnelles, on a des réactions exceptionnelles, on l'a vu à Paris pour les attentats, hein. Tous les thérapeutes se mobilisent au moment des grandes catastrophes et se portent volontaires, comme notamment aux urgences, pour accueillir les personnes et les accompagner, et ensuite les personnes dans un deuxième temps sont réorientées sur le système de soins. Et là, on sait bien que par contre, il y a une pénurie de personnes dans le système de soins, mais la France a quand même acté qu'il fallait augmenter les personnes et puis surtout les former aussi, ça c'est très important pour ce genre d'événement.
Alors, autre tragédie internationale, hein, c'était le tsunami sur l'océan Indien, décembre 2004. Et là, personnellement, docteur Guillaume Font, vous avez été amené à suivre des proches de victimes. Justement, qu'est-ce que ces personnes vous ont dit? Quelle était la nature de leurs troubles?
En fait, c'était vraiment quelque chose qui était vécu comme irréel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est donc un événement qui a touché des personnes qui étaient en vacances à Noël, dans un endroit qui était jugé comme un endroit paradisiaque, apaisant, et dont on a été sans nouvelles pendant plusieurs heures. Et donc, les personnes, les proches qui étaient en France métropolitaine ont vécu à la fois la sidération de voir cet événement, de voir les images à la télévision, de toutes ces maisons dévastées, de prendre conscience de l'horreur qui avait été vécue sur place, et d'être sans nouvelles en fait de leurs proches, puisque donc il y a eu vraiment ça a duré je crois 24 à 36 heures, voilà, une absence de nouvelles. Il n'y avait pas le même système que pour les attentats par exemple. Au moment des attentats en 2015, il y avait un système sur les réseaux sociaux pour dire je suis en sécurité, je suis en bonne santé, et donc les proches pouvaient très vite être informés. Là, ça n'existait pas à l'époque. Donc les personnes ont vécu ça comme vraiment une situation à la fois d'incertitude, d'impuissance et une exposition à ce qu'on appelle l'impermanence, c'est-à-dire la possibilité que tout s'arrête à chaque instant, ce qui est très traumatique.
Alors en août dernier, une étude de la revue The Lancet a montré que d'ici 2100, 2 Européens sur 3 seront affectés par des catastrophes climatiques. Le sud de l'Europe, hein, le plus ciblé. Certains systèmes de santé sont déjà adaptés. Il y a eu par exemple en France le plan canicule. Docteur Guillaume Font, les urgences s'adaptent. Vous l'avez dit, il y a ces cellules d'intervention. La médecine générale peut-être aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, la psychiatrie, la santé mentale, c'est d'ores et déjà adapté ou il reste encore tout à faire?
On est, je dirais, à mi-chemin. Vous avez raison de souligner que les médecins généralistes sont des partenaires indispensables dans le système de soins. Ce sont souvent les médecins de famille, donc les personnes ont confiance en eux, ils les connaissent bien, ils connaissent leur histoire. Et donc c'est très important aussi pour la personne d'avoir confiance dans un médecin ou un thérapeute qui va les suivre et d'avoir confiance dans le fait que ce thérapeute-là va rester, ça va pas être une nouvelle personne à chaque fois. Donc on a déjà fait énormément d'efforts, donc les cellules de crise ont été vraiment bien développées. Maintenant, dès qu'il y a par exemple un accident sur l'autoroute où les personnes sont exposées dans un bus à un accident de la route traumatique avec une exposition à la mort d'autres personnes, tout de suite il y a une cellule de crise déclenchée dans les minutes qui suivent. Donc vraiment, on a un système qui est très réactif. Par contre, en termes de moyens, quand on est face à des catastrophes de grande ampleur, bon, on l'a vu pour Paris en tout cas au moment des attentats, vraiment la réaction a été exemplaire et saluée par le monde entier. Ensuite, il faudra voir pour la canicule, par exemple, ce sont des choses qui se passent sur plusieurs jours et justement, on n'a pas encore conscientisé, et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui, que le climat peut être un événement traumatique. Donc ça, il faut vraiment prendre cela en compte puisqu'effectivement, les personnes sont exposées aux conséquences, voient leurs proches qui peuvent être démunis, décédés de conditions pendant la nuit. Ça peut être aussi des enfants, hein, des morts subites du nourrisson, ça peut être des choses extrêmement traumatiques. Et donc ça n'a pas encore été complètement conscientiser. Et je pense que notre émission va permettre d'améliorer ça.
Merci beaucoup, docteur Guillaume Faux, de nous avoir accompagnés tout au long de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre, chercheur à la Fondation Fondamentale. On va suivre, bien sûr, sur RFI les suites de ce sommet de Paris consacré au financement de la lutte contre le réchauffement climatique, 2 ans après l'accord de Paris qui avait donc conclu la COP21.
Priorité santé sur RFI.
Et nous prenons tout de suite la direction de Conakry qui accueille à partir de ce mardi et pour 2 jours la 6e édition du partenariat de Ouagadougou, partenariat 9 États d'Afrique de l'Ouest, réunis depuis 2011. Je vais faire la petite liste. Burkina Faso, Sénégal, Niger, Togo, Mauritanie, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali et donc la Guinée dont vous êtes le conseiller politique sanitaire au ministère de la Santé. Docteur Mohamed Lamine Sané, bonjour.
Bonjour madame.
Alors ce partenariat vise à amplifier la planification familiale dans ces pays partenaires, autrement dit étendre l'accès à la contraception. Alors quels objectifs pour les participants cette année ?
L'objectif reste le même, c'est-à-dire accélérer les progrès pour l'utilisation de la planification familiale à l'Afrique de l'Ouest. Et cette année, le thème est basé sur l'autonomisation de la femme et la réduction contraceptive.
Alors ce terme de révolution contraceptive, il peut poser question dans des régions comme les vôtres. Comment parler de cette révolution contraceptive, de liberté de choix, dans des pays où il y a encore des mariages précoces et où le consentement est loin, le consentement des femmes bien sûr, est loin d'être respecté?
C'est une œuvre de longue haleine. Le travail a commencé depuis de longues années. Le partenariat de Ouagadougou nous aide énormément à vaincre l'ensemble des barrières. C'est pour cela que ce partenariat regroupe au-delà des professionnels de santé, la société civile, les leaders politiques, les chefs religieux, pour qu'on puisse montrer à chacun l'importance de la planification familiale et pour qu'on puisse avoir leur adhésion.
Avec une véritable problématique d'accessibilité, puisqu'il y a certaines régions, on pense particulièrement au monde rural, certaines régions où la contraception n'est tout simplement pas accessible.
Oui, c'est exact. Nous avons entre 25 et 30% de personnes non satisfaites à cause de la faiblesse de l'offre. Mais au-delà de l'offre, il faut aussi travailler beaucoup plus la demande en essayant de vaincre tout ce qu'il y a comme obstacle à la planification familiale. Et les efforts immenses sont faits dans tout le pays. Si on voit le parcours qui a été réalisé sur les 2 dernières années, on a pu couvrir près d'un million de nouvelles utilisatrices des méthodes sur 2 millions qui étaient attendus jusqu'en fin 2020. Donc c'est des progrès immenses et je pense qu'on est sur le bon chemin. Et des rencontres bilan de ce genre, comme la réunion qui vient de s'ouvrir à Conakry, sont des occasions pour en faire la paire de tout le monde.
Malgré tout, les organisateurs reconnaissent eux-mêmes la faiblesse de la contraception dans les pays concernés par ce partenariat de Ouagadougou. Vous avez des données chiffrées, par exemple, en termes de pourcentage, pour savoir quelle proportion de la population féminine a recours ou a accès simplement à cette contraception ?
Si on prend les méthodes modernes de contraception, je prends juste l'exemple de mon pays, la Guinée, qui est un peu à la traîne. Nous sommes à 10% de taux de prévalence contraceptive et l'objectif qu'on s'est fixé pour 2020 est d'atteindre 22% de taux de prévalence contraceptive pour le pays.
Alors, autonomisation de la femme, révolution contraceptive, et les hommes dans tout ça, quelle est leur place dans cette révolution, puisque certains ne sont pas encore disposés à voir justement la taille des familles limitée par ces méthodes modernes de contraception?
Alors, leur implication devient une réalité et nous allons commencer au niveau des adolescents, des jeunes, mais aussi les leaders religieux et politiques. Vous n'êtes pas à Conakry maintenant, mais si vous voyez pour ce thème, la moitié de la salle est composée déjà d'hommes et leur implication commence donc à tous les niveaux, au niveau des décideurs. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une œuvre de longue haleine. Et quand on voit le chemin parti, on peut penser que les objectifs qu'on s'est fixés avec l'ensemble de nos partenaires, on peut les atteindre grâce à ce partenariat de Ouagadougou.
Alors, il y a une dimension culturelle et puis il y a aussi cette question, pourquoi les pays francophones sont-ils à la traîne en retard par rapport aux autres pays de la région ?
Il faut toujours prendre cette dimension culturelle. Hein. Il y a le poids de la religion, c'est pour cela qu'on cherche à avoir maintenant les religieux comme partenaires. Il y a l'offre de services qui n'était pas très diversifiée. C'est pour cela les nouvelles méthodes sur lesquelles on travaille, beaucoup sur la décentralisation, utiliser les agents de santé communautaire pour la distribution, ne serait-ce que des pilules et des préservatifs. Mais aujourd'hui, on a même des méthodes longue durée qui sont distribuées, rendues disponibles au niveau des communautés à la base.
Comme les stérilets ou les implants, par exemple.
Non, c'est des méthodes longue durée comme les implants, comme le DU, qui sont devenues très populaires. Et c'est actuellement, quand on regarde même la liste des nouvelles utilisatrices, ces méthodes sont les plus recherchées actuellement pour les femmes.
Merci beaucoup, Dr Mamadi Ansane. Je rappelle que vous êtes conseiller politique sanitaire au ministère de la Santé en Guinée. Et notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Demain, nous parlerons de l'hypertension artérielle. Si vous voulez témoigner, poser une question, le numéro de téléphone de Priorité Santé, c'est le 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.